On accueille Séverine maintenant au 3921. Bonsoir Séverine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Séverine ?
Je vous appelle du Tarn.
Du Tarn, d'accord.
Du Tarn, oui, tout à fait.
Et quel âge...
de Toulouse.
Oui, la chance.
Belle région. Oui, effectivement, oui, belle région. Mm-hmm. Belle région.
Et quel âge avez-vous ?
Et j'ai 48 ans.
D'accord. On va parler encore de... Je dis ça pour introduire votre témoignage, mais quand j'ai lu ce que Florian ou Julia ont préparé de l'entretien que vous aviez eu avec eux, je trouvais que se dégageait encore cette parole étouffée, hein, cette parole que l'on ne prononce pas à un moment crucial, dont on ne sait pas que ce silence... où cette parole étouffée va avoir des conséquences sur notre vie assez terribles. Et on est encore dans ça, hein, avec votre histoire.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, j'ai écouté en fait, les précédents témoignages et je me sentais en lien effectivement, avec les personnes qui ont témoigné. même si voilà, chaque cas est particulier, chaque histoire est particulière. Ouais. Et particulière, bien évidemment. Mais il y a toujours effectivement la parole. Il y a, je ressentais aussi en commun cette envie, cette reconstruction et cette envie de sentir, cette envie de revivre. Et c'est effectivement ce que moi j'ai vécu, ce dont j'avais envie de témoigner, de partager. Et autour d'un sujet qui, selon moi, est encore trop tabou, le sujet de l'inceste.
Oui, très tabou, mais vous noterez que la parole sur cette libre antenne, en tout cas ce sujet, encore lundi dernier, nous avions Farah qui nous appelait de Bruxelles et qui nous racontait cette parole-là étouffée, ce silence qu'elle avait gardé, tout l'impact que cela avait eu sur sa vie, sur son corps, et encore aujourd'hui. Donc, tabou, mais en tout cas, sans vouloir faire la promotion de cet espace de parole qui est la libre antenne d'Europe 1, on se rend compte que malheureusement tabou, parce que tellement répandu, hein.
C'est ça, en fait. Tellement de personnes touchées. Effectivement, la parole se libère énormément hein, depuis quelques années.
Oui.
Mais tellement de personnes qui restent encore dans leur silence, étouffées dans leur silence et qui ont du mal. Enfin, j'étais de ces personnes-là. Donc voilà. Tellement de personnes qui restent encore cachées. Et il est vrai que j'ai eu cette envie effectivement à un moment donné en fait dans ma vie de ne plus me cacher de pouvoir parler, de pouvoir évoquer et de me libérer en fait de ce passé, de ce tabou, de ce silence. Et c'est un énorme soulagement. Alors il n'y a pas que ça, hein. C'est se reconstruire après avoir vécu l'inceste, c'est un long chemin. Il y a énormément de travail sur soi, personnel, corporel, psychique. Enfin, voilà, il faut beaucoup de patience et de persévérance pour y parvenir, mais c'est quelque chose qui est possible. Il est possible de revivre et de bien vivre et de se reconstruire après. Et c'est pour moi c'est un message important que j'ai envie de
délivrer ce soir.
C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait.
Vous êtes victime à l'âge de 9 ans.
C'est ça, c'est ça.
Dans quelles circonstances, que se passe-t-il ?
Je vis dans une ambiance avec mes parents, une ambiance aimante, mais dans mon entourage, un oncle, mon parrain, mon parrain qui en fait par ses déviances sexuelles en fait m'emporte dans son tourbillon de délire sexuel et commence par des abus puis des viols hein, des viols réguliers, des viols fréquents sortis de l'école ou dans ma chambre régulièrement et continue dans son délire, mais je ne sais pas, je ne cherche pas vraiment à savoir, mais continue en fait à abuser en fait de ma petite personne en me proposant à des adolescents. Je pense qu'il abusait également de ces adolescents, mais ces adolescents me violaient également j'étais leur joujou, j'étais leur appât sexuel. J'ai été emportée pendant des années dans ce tourbillon. J'ai vécu l'amnésie traumatique. Donc en même temps, je suis emportée et en même temps, je refoule, je mets tout de côté. Je ne pense pas à tout ce que je subis. Oui. Alors bien évidemment, je suis pas une enfant qui est bien dans ses baskets. Je me réfugie dans mes résultats. J'essaie d'avoir des résultats scolaires. Je me réfugie dans mes devoirs, dans mes leçons. Je passe des heures dans ma chambre à étudier. Voilà, je fuis en fait. Je crois que je fuis en fait tout ce qui se passait. Mm-hmm. Mais j'oubliais au fur et à mesure en fait de. J'ai une pensée en fait. Je me rappelle très bien lorsqu'il ça s'est passé pour la première fois des pensées que j'ai eues où je me disais mais c'est normal en fait c'est. Ça se passe comme ça dans toutes les familles. C'est normal. Ça se passe comme ça dans toutes les familles. Tout va bien, tout va bien. Et à partir de là, je pouvais reprendre ma vie et laisser de côté.
Vous avez parlé d'adolescents qui vous agressaient aussi. Oui. Ces adolescents étaient eux-mêmes les victimes de cet homme ?
Je supposais. En fait, nous retrouvions régulièrement. Donc, il y a eu 3 adolescents, et nous nous retrouvions régulièrement à 4. Donc là, ça se passait dans son camping-car. Mm-hmm. Et un adolescent était, on va dire, avec moi. L'autre était avec mon oncle. Ensuite, ça tournait. Et on pouvait se retrouver à 4. Oui, je pense qu'ils étaient aussi emportés en fait dans ce tourbillon sexuel, mais voilà, je pense qu'il y avait que mon oncle jouait aussi le rôle d'un éducateur sexuel vis-à-vis de ces adolescents en me livrant à eux en fait. Voilà. Ma fille. J'étais la fille en fait du petit groupe, du petit clan.
Ouais. D'accord. Ouais. Cette amnésie, elle dure combien de temps en fait? Parce que vous dites que à un moment votre oncle va être arrêté et que vous l'apprenez par votre père.
C'est ça.
Et qu'il y a 2 mots qui vous viennent.
Ouais. Moi aussi. Moi aussi.
Mais ces mots, ils ne sortent pas, ces 2 mots.
Ils ne sortent pas. Ils restent en moi, ces 2 mots. Ils restent en moi. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans et mon père m'apprend.
Vous pouvez vous déplacer un petit peu, Séverine, parce que ça, vous captez difficile. Enfin, c'est par moments où il y a des mots qui sautent.
Ah, ok. Je vais me déplacer ici.
Voilà.
Est-ce que c'est OK?
Oui.
Oui, ça va mieux?
Oui, ça va là.
Bon, tant mieux.
Donc, c'est votre père qui vous apprend ça?
Oui, c'est ça. Mon père, voilà, mon père, je rentrais d'un voyage. Moi, j'étais partie en voyage avec une amie depuis 2 mois et je rentre. Il vient me chercher à la gare et il me dit que mon oncle a été arrêté. Et il me demande, mais il me dit, mais il a fait des conneries. Il me demande, est-ce que tu savais quelque chose, toi? Et je dis non, non, je ne savais rien.
Vous avez
Mais à
quel
ce
âge? Vous avez quel
moment-là,
âge à cette époque?
27 ans, 27 ans, 27
27 ans,
ans.
d'accord.
Ouais, 27 ans. Mais à ce moment-là, intérieurement, en fait, je me dis, mais si, je sais pour moi, je sais pour tous ces autres garçons, je sais pour mes cousins, je sais pour mon propre frère. Enfin, en fait, j'ai eu cette impression d'avoir vu en fait tous ces jeux avec d'autres garçons. J'ai eu des échos, enfin, avec d'autres garçons. Je ressentais quelque chose. Enfin, à la fin de mon amnésie, je ressentais qu'il s'était aussi passé quelque chose avec mon frère. Donc voilà, tout est remonté ici. Intérieurement, j'étais devenue une cocotte minute, en fait, qui était sous pression, là, parce que je retenais tout ça en moi. Donc, depuis toute cette amnésie depuis des années, mais là, en fait, ces révélations qui sont restées des mois et des mois et des mois en moi, et voilà, j'étais sous pression, sous tension. Je ne savais pas comment parler, comment dire quoi que ce soit. Et puis je trouve le moyen de parler à mes parents. Je savais qu'ils avaient des doutes par rapport à mon frère, puisque toutes les petites victimes de mon oncle ne sont que des garçons. Donc je n'avais jamais imaginé, pensé que moi aussi, j'avais été victime. Et en fait, je prends le tremplin, en fait. C'était un tremplin pour moi, en fait, de leur dire, mais oui, bien sûr, il a été abusé, et moi aussi. Voilà, donc voilà, à ce moment-là, j'ai dit 2 mots également, moi aussi. Et ça a été un grand soulagement pour moi. Ça a été quelque chose, même si la discussion n'a pas été plus loin, et elle n'a pas été beaucoup, beaucoup plus loin pendant des mois et des années. Mais peu importe, c'était dit, et je crois qu'à partir de là, j'avais mon petit bonhomme de chemin à faire également pour continuer à exister, pour essayer de survivre encore à ce passé, puisque sachant que là, jusque-là, c'était une sensation de moi aussi, il m'est arrivé quelque chose. Voilà, moi aussi, j'ai vécu ça avec lui. Je n'avais pas encore les flashbacks, les flashbacks, pardon.
Oui.
Les flashbacks sont arrivés bien plus tard, quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, les flashbacks ont été d'une violence, une violence inouïe. L'impression de complètement de devenir folle, de complètement péter les plombs, en fait. Depuis quelques mois, le malaise, le mal-être, de toute façon, qui était en moi, qui était imprégné en moi depuis tant d'années, m'avait fait aussi plonger une addiction par rapport à l'alcool. Et là, ces flashbacks ont été, bon, ont été le summum, en fait. Enfin, summum, ou plutôt un gouffre, plutôt. Là, j'ai sombré dans les abîmes, puisque ça, c'était d'une violence inouïe de revoir, tout ce qui s'était passé entre lui et moi et eux. Voilà, donc ça a été toute une période très compliqué, très difficile, très... Ah, j'étais touché pas terre, en fait. Hein. J'étais hors sol. Mais avec... j'étais assez isolée également. J'étais vraiment... Enfin, j'étais assez isolée, mais je pense que je le souhaitais, en fait. Je n'arrivais pas à avoir une... De relation. C'était difficile au niveau sociabilité.
Oui.
Et je trouve que j'en suis.
Ben, vous apprenez.
Mais voilà, j'avais vraiment une soif de vouloir sortir de tout ça, même avec. Je me suis fait peur aussi, hein, le fait de me sentir folle, de sombrer dans l'alcool. Je me suis vraiment fait peur à un moment donné. Hein, je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis dit, non, à un moment donné, il faut que je. Pour que je fasse quelque chose. Donc, j'ai frappé à la porte de diverses associations de victimes d'inceste, associations pour des femmes qui avaient des problèmes d'addiction, de thérapeutes, psychologues, psychiatres, sexologues. Ben je, voilà. Alors qu'on me disait de ne surtout pas tout cumuler, comme j'avais un besoin énorme de parler, d'évacuer, de me soulager, de vomir en fait tout mon passé. Ça a été mon voilà mes premières fois où vraiment j'allais tout balancer en fait. Ça m'a pris quelques temps, et puis arriva le moment où il y a eu avant ces flashbacks, juste avant, je suis allée sous conseil de psychologue. Je suis allée voir les gendarmes en fait pour je savais pas trop pourquoi j'y allais en fait. On me disait d'y aller. J'y vais. Je sentais que de toute façon il fallait que je fasse quelque chose. Et les gendarmes me parlent de après ma déposition de prescription. Je venais de fêter mes 28 ans. Ça avait dépassé de quelques jours.
Oui.
Et bon, ils me disent déjà que je suis la seule fille, en fait, que tous les petites victimes de mon oncle sont des garçons. Donc, il y avait quelque chose. Comme si je ressentais comme un doute de leur part, qui était très, très embarrassant, très, très gênant pour moi. D'autant plus que je venais de leur dévaler tout mon passé, ce qui était quand même assez difficile. Et il me parle de prescription. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Je ne savais pas poser de questions.
La fameuse prescription.
La fameuse prescription, effectivement, qui de nos jours, heureusement, a changé, en fait. Hein.
Oui, a changé, mais elle ne devrait pas exister, cette prescription, parce que elle ne devrait ce pas, sont les elle victimes qui sont exister. Condamnées à vie.
Tout à fait.
Et quand on a fait une connerie elle comme ça... Pas. On doit pouvoir la payer à un moment ou un autre de notre vie.
Tout à fait.
Hein, même si c'est 40 ans après, il faut passer à la caisse, quoi.
Oui, c'est ça. Ah, mais rendre oui. compte, on y rendre compte devant la société qu'il y a quelque chose qui n'a pas cloché, en fait. Enfin, qui n'est pas normal et prendre compte devant la société et auprès des victimes. Effectivement, c'est d'une importance. Très grande importance, effectivement. Et pour moi, donc, il y avait prescription. J'ai commencé un petit peu à écrire prescription, les flashbacks. Alors que j'avais toujours été quelqu'un de gentil, de calme, qui ne se mettait jamais en colère, j'ai commencé à écrire au parquet, à écrire par rapport à la prescription. J'ai commencé à écrire à mon oncle qui était en prison. J'avais l'impression d'embêter un petit peu tout le monde. À chaque fois que j'envoyais un courrier, j'étais convoquée à la gendarmerie qui me demandait de cesser mes courriers. Mais j'ai pu tout de même, à un moment donné, j'ai le procureur de Perpignan, donc là où était incarcéré mon oncle, qui m'appelle me propose de pouvoir témoigner devant mon oncle, voilà, lors de son jugement. Ce n'est pas mon jugement à moi, qui n'est pas mon procès, mais j'avais, voilà, il m'offre en fait cette possibilité de
qui était plutôt
parler.
Un geste fort du procureur, je trouve.
Oui, tout à fait.
Qui a bien
tout
entendu
ouais.
Votre,
ah ouais.
votre douleur.
J'ai vraiment ressenti, enfin pour moi c'était une des personnes en fait qui m'a écoutée en fait. C'était oui ça. Ça a été un moment très fort. J'ai ce regret par la suite de ne jamais avoir pu le rencontrer cette personne, mais effectivement c'était quelque chose de très très important pour moi. Donc bon, je vais pas donner une réponse tout de suite. J'étais déjà assez bouleversée par son appel téléphonique. Et j'ai accepté quelques jours plus tard pour un procès qui devait se dérouler je sais plus 6-7 mois plus tard.
Oui.
Voilà, j'étais en Vendée, j'étais dans l'ouest de la France, je suis redescendue, j'étais mutée dans le sud de la France, là où était incarcéré mon oncle. Et j'étais pas encore très très bien dans ma peau, hein. J'ai toujours eu encore des déboires, toujours dans une ambiance festive, avec des relations avec les hommes difficiles. Enfin, ça a été une
chaotique.
Période très 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 chaotique, quoi. Très très chaotique. Et ça a continué d'être une période chaotique puisque je devais donc témoigner devant mon oncle lors de son procès, et malheureusement il s'est suicidé quelques heures avant cette matinée où je devais témoigner devant lui. Et là, ça a été encore à nouveau pouf. Un gros coup de massue, je perds pied, mais à ce moment-là, je me dis, bon, eh bien, de toute façon, là, il n'est plus là, je mets mon passé de côté, je ne veux plus en entendre parler, je vois un psy, je lui dis à mon psy, mais non, ça y est, je ne veux plus en parler. Donc, je refuse tout, je refoule tout, je ne veux plus en parler, c'était pas... Bien évidemment, avec le recul, c'était pas une réaction adaptée, mais ça a été ma réaction là, en fait. Je mettais tout de côté, quoi.
Un peu
et
une fuite.
J'ai continué à vivoter à vivoter. J'ai malheureusement mon père. Avec l'annonce de cette histoire, de cette affaire, par rapport à mon oncle, par rapport à moi, il a développé un cancer et décède trois ans plus tard de la maladie. Et donc une période difficile où je suis beaucoup plus attachée à être auprès de mon père, que voilà, je lâche toutes mes grosses difficultés, mes déboires, enfin voilà, tout, moi qui avais une trentaine d'années passées, qui était obnubilée par l'idée de pouvoir construire quelque chose avec un homme, une famille, etc. Je laisse tout de côté, je suis avec mon père, je l'accompagne. Et je rencontre un homme qui est aujourd'hui mon mari. Et donc je perds mon père, je rencontre un homme. Ça a été quelque chose d'assez fou dans ma vie. Mon père qui n'attendait qu'une chose, c'est de voir sa fille heureuse avec un homme.
Oui.
Et à partir de là, je ma reconstruction a commencé là, en fait. Alors, par étapes, elle n'a pas été fluide et franche. Je vis le bonheur, je vis la douleur de la perte, le bonheur d'être, de pouvoir vivre quelque chose, de construire quelque chose, de vivre enfin, d'avoir une oxygène, de pouvoir vivre des bonheurs, voilà, tout simplement. Et mon passé est toujours, je mets toujours mon passé de côté. Mon mental ne veut plus entendre parler de mon passé. Mon corps, par contre, le vit encore ce passé. J'ai de nombreux troubles corporels. Je suis criblée, j'ai psoriasis, des gros problèmes très paralysants de digestion, j'ai des mâchoires bloquées, des fausses couches à répétition, puisque bien évidemment, avec mon compagnon, la construction d'une nouvelle vie fait que... Oui. Et que on est voilà dans ce beau projet d'avoir des enfants. Mais voilà, j'arrive à vivre des bonheurs avec quelques embûches tout de même. Et mon passé en toile de fond, grosse embûche. Enfin, embûche, c'est même pas un mot, en fait, embûche. C'est que nous perdons un bébé à la naissance. Et à partir de là, on change complètement notre cap de vie. On a senti que nos chemins de vie, en fait, étaient complètement... qu'on avait complètement déraillé, en fait, sur nos chemins de vie. En fait, on n'était pas... Je dis « on » parce que là, en fait, c'était quelque chose qu'on a vécu en couple,
ensemble, bien évidemment. Oui.
Et donc sont partis sous le choc, sont partis en voyage sur un coup de tête. On est partis à vélo. On avait notre premier enfant qui était là, qui avait 3 ans. Et sur un coup de tête, on part à vélo, on part en voyage, on part 8 mois. Et on revient complètement changé, complètement. Heureux d'être là, d'être ensemble et avec ce petit ange messager qui est en nous, qui nous a parlé et qui nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas du tout, en fait, sur le bon chemin, qu'à un moment donné il fallait changer, qu'on n'était pas si heureux que ça et qu'il fallait changer de cap de vie. Et c'est
de
ce quai.
Que
de quai.
Oui. C'était pas le bon port.
C'était tout à fait. Et on était tous les deux dans cet esprit d'accueil, de vie à plusieurs, de vie, enfin, de collectivité. Et on a pu, en fait, vivre, en fait, des expériences de collectivité qui m'ont aidé, en fait, à me retrouver, puisque j'avais encore toujours, en fait, ce passé qui me collait à la peau intérieurement. Je voulais pas le savoir, en fait, mais c'était toujours en moi et je ne me connaissais pas, je me retrouvais pas. Et là, cette nouvelle vie de pleine de richesses, de découvertes, de partage, m'a ouvert les yeux, m'a complètement, a commencé à m'ouvrir les yeux, puisque c'est le chemin était encore à parcourir, mais ça a été une très belle découverte. En famille, voilà, en très belle découverte en famille, et c'est partie de ce chemin de reconstruction, de renaissance, sachant qu'à un moment donné, j'ai bien compris. En fait, la vie m'a bien fait comprendre que j'avais encore des choses à travailler. Je me suis retrouvée de nouveau en fait devant des manipulateurs, devant des situations de manipulation qui m'ont complètement déstabilisée. Je suis retombée dans les abîmes et j'ai bien compris que ce n'était pas ces personnes, ces situations, ces personnes que j'avais rencontrées qui étaient qui était responsable de ce mal-être qui était encore en moi, c'est ce passé qui était encore là en fait. Et voilà, j'ai pu retravailler sur moi pendant quelques mois pour laisser de côté toute cette victimisation, pour reprendre confiance en moi, retrouver estime, me retrouver en fait, comprendre, savoir qui j'étais, ouais. Me positionner, le non, savoir dire non, ça a été, voilà, tout a été des bribes encore qui ont été travaillées et qui m'ont fait sortir de ce mal-être qui était encore présent, même si je ne le voulais pas. Je ne voulais plus de ce mal-être, mais voilà, il était tout de même encore imprégné. Et la libération s'est fait là. Alors la libération, elle s'est fait aussi par une discipline que j'ai découvert assez tôt et qui m'a toujours accompagnée, qui est toujours présente auprès de moi et qui m'a permis de me reconnecter à mon corps, me réintégrer en fait, réintégrer toutes les parties de mon corps, parce que lorsqu'on vit en fait c'est des traumatismes aussi déchirants, aussi fracassants, oui. on est complètement à côté de nos pompes, on n'est plus soi en fait.
Je pense qu'il y a comme des parties du corps qui sont comme mortes.
C'est ça, j'allais dire, on n'est plus vivant. Oui. Elles ne sont plus vivantes, ces parties. Moi, j'ai trouvé, il peut y avoir tellement d'autres soins ou séances, activités, quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé aussi en cette discipline ce moyen de me retrouver dans mon corps, de me reconnecter avec de réintégrer mon espace et tout cet ensemble de démarches, de choses ont pu me redonner un élan de vie et j'en suis très heureuse aujourd'hui. J'ai aujourd'hui envie de donner un sens en fait à toute cette histoire en fait. J'ai plus a priori, ce passé en fait, voilà, il fait partie de moi.
Et oui, vous êtes aligné. J'entends ça, moi, que vous êtes aligné et que dans cet alignement, il y a cette partie là de votre vie, mais que vous avez enfin intégré. Voyez comme ça s'est emboîté comme un puzzle. Vous voyez comme un l'être intelligent que vous étiez et qui ne demandait qu'à être lumineux aussi devait intégrer ce truc dont vous aviez du mal à vous dépatouiller finalement, c'est ce que j'ai entendu.
Et c'est ça, oui. Ouais.
Et puis il y a
je
ce livre.
Je ne suis pas là à me dépatouiller. Oui, il y a.
Moi j'aime bien dépatouiller, dépatouiller, le mot dépatouiller. Je trouve que tout le monde le comprend.
Oui, j'ai écrit ce livre qui pour moi, c'est donné un sens à ce que j'ai vécu. Mmh. Et j'ai voulu apporter. Alors, moi, ma première idée, en fait, par rapport à ce livre, c'était de l'écrire pour les autres. Mmh. Pour apporter aux autres.
Il nous reste 3 minutes. Je vous le dis.
Ah, vous. Oui. Vous avez passé bien vite. c'est pour cet effet miroir. Et dans ce livre, effectivement, je parle de mon vécu, mais je parle plus de toutes ces étapes, toutes ces choses, tout ce qui peut apporter des réflexions, des livres. Et j'avais envie d'apporter ça en fait à d'autres victimes. Voilà, tout simplement de pouvoir apporter ou semer des petites graines auprès d'autres victimes pour rendre compte que oui on peut revivre après des traumatismes aussi fracassants aussi déchirants, c'est possible. Et je voilà, c'était ma petite touche à l'édifice espoir.
Oui, mais c'est important que... Vos témoignages aux unes, aux uns, aux autres sont importants parce que ce sont à chaque fois des petites bougies comme ça dans la pénombre pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin et qui peuvent leur faire gagner beaucoup de temps. On parle de dépatouiller, d'aligner, de reconnecter, de changer de vie à un moment, mais... Je pense que ce sont des images et des mots qui peuvent résonner dans les têtes de celles et ceux qui souffrent encore et qui n'ont pas encore réussi à intégrer ça. Parce que on parlait de la prescription tout à l'heure, et je disais c'est à vie que vous êtes victime. En tout cas, le temps que vous n'avez pas encore réparé les choses. Donc pourquoi les victimes devraient payer? Et là, d'un seul coup, encore, on a eu des lumières, hein, des gens intelligents, qui, en tout cas, sont plus intelligents que nous, pour pondre. Ah bah, 20 ans de prescription. Allez, on la met à 20 ans.
Allez, 20. Oui. 20.
On se demande à quoi ça correspond, ça, quand on entend votre témoignage ce soir. On mesure la profondeur du gouffre. Et 20
j'en
ans,
parle aussi en fait dans mon
dire.
Livre, effectivement, je voilà, pousser un petit coup de gueule par rapport à cette prescription en fait. C'est quelque chose de
qui ne veut rien dire.
Complètement d'aberrant. Complètement d'aberrant.
Parce qu'on l'entend ce soir, il vous en a fallu du temps pour parler, hein.
Oui. J'ai pris ce temps.
Et vous avez pris ce temps.
Mais peu importe, j'en suis bien heureusement.
Et bah ouais, puis il fallait prendre ce temps-là.
Ouais.
C'était comme ça.
Ouais,
c'est et
ça.
C'est pas pour
et
rien.
Ce sens, en fait, et ce sens maintenant que je donne, il y a ce livre, mais il y a aussi voilà, le yoga m'a énormément accompagnée et j'ai cette envie aussi d'apporter en fait à d'autres victimes en fait, cette reconnexion, ce bien-être que j'ai pu vivre en fait par ce biais.
Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais ce bébé qui est passé dans vos vies et qui n'est pas venu pour rien. Hein, qui était sans doute là, ce laps de temps pour vous dire changez, là il y a un truc, vous êtes trompé, mais c'est pas grave, ça peut se recommencer ailleurs. Tout peut recommencer ailleurs, mais le tout c'est de le vouloir à un moment, hein. Merci mille fois Séverine pour votre témoignage ce soir et puis
n'hésitez pas
à rappeler un jour quand vous avez envie, d'accord?
Avec plaisir.